Lorsque nous ouvrons les revues qui nous sont proposées dans nos boîtes aux lettres gratuitement, nous sommes souvent invités, en parcourant ces revues, à consulter les spirites qui nous proposent des solutions à tous nos problèmes. J'aimerais, si vous me le permettez, vous entretenir de ce spiritisme face à la Bible pendant quelques instants. Le spiritisme ne cesse de recruter de nouveaux adeptes dans tous les pays et dans toutes les classes de la société. Il a la prétention d'être la religion de l'avenir et d'apporter aux âmes force, consolation et lumière. Il publie un grand nombre de journaux, multiplie livres et réunions, possède des organisations nationales et internationales. Lorsqu'on interroge un spirit sur la manière dont il est devenu, il vous fait un récit qui, la plupart du temps, se ramène au trait suivant. J'étais dans le deuil, je venais de perdre un être aimé quand une personne est venue me voir. Elle m'a dit que je ne devais pas m'affliger ainsi, car il y avait encore pour moi une possibilité d'entrer en contact ici-bas avec mes chers disparus. Je n'avais qu'à l'accompagner à tel endroit, dans telle réunion, et sans être bien réellement convaincu, j'y suis allé. Et mon incrédulité a été vaincue. J'ai rencontré là des personnes qui, toutes, m'ont affirmé qu'elles avaient pu recevoir des communications de leur mort. Et puis, j'ai assisté à la chose. Et enfin, tout ce qui pouvait me rester de doute a disparu complètement quand j'ai moi-même eu la faveur de m'entretenir, par le moyen d'un médium, avec les miens. Alors, je suis devenu un spirit fervent. C'est ainsi que des âmes sont attirées au spiritisme par l'esprit de causer avec les morts et de recevoir par là une certitude de la survie. Oh, ne jugeons pas sévèrement ces pauvres cœurs meurtris par le deuil, avides d'affection et de consolation. Si nous avons souffert, nous pouvons les comprendre. Mais il faut nous demander si ces âmes ne sont pas les victimes inconscientes d'une terrible séduction, et si notre devoir de croyant, de chrétien, n'est pas de les avertir et de prendre une position nette en face du spiritisme. Et pour cela, nous devons être nous-mêmes bien au clair sur ce que la Bible enseigne à ce sujet, par conséquent, sur la pensée de Dieu à l'égard de cette doctrine. Le spiritisme n'est pas une chose nouvelle. Magie, évocation des morts étaient pratiquées couramment parmi les nations au milieu desquelles vivait le peuple d'Israël. Or, voici ce que Dieu lui avait solennellement déclaré dans sa loi. « Ne vous adressez point à ceux qui évoquent les esprits ni aux devins. Ne les consultez pas afin de ne pas vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Nous trouvons ce passage dans le livre du Lévitique au chapitre 19. Et ailleurs, il est dit, si quelqu'un s'adresse à ceux qui évoquent les esprits et aux devins pour se livrer à leurs pratiques, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Lévitique, chapitre 20, verset 6. Toujours dans le Lévitique, au chapitre 20 et au verset 27, nous lisons, « Tout homme ou toute femme qui évoque les esprits ou qui s'adonne à la divination sera puni de mort. » Dans le livre du Deutéronome, nous trouvons ce passage, quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu ne te mettras pas à imiter les actions abominables des peuples de ce pays. Il ne devra se trouver chez toi personne qui fasse passer son fils par le feu ou sa fille, ni devin, ni astrologue, ni enchanteur, ni magicien, ni personne qui emploie des charmes, qui consulte les évocateurs et les devins, ou qui interroge les morts, car l'Éternel a horreur de quiconque recourt à de telles pratiques. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser devant toi ces nations. Tu appartiendras entièrement à l'Éternel ton Dieu. En effet, ces nations que tu vas déposséder écoutent les astrologues et les devins, mais toi, l'Éternel ton Dieu, ne te permet pas d'agir ainsi. Livre du Deutéronome, chapitre 9. Mais le peuple transgresse les commandements de l'Éternel Et nous avons, dans le chapitre 17 du second livre des rois, un tableau des désordres et des désobéissances d'Israël et de Juda, dans lequel nous lisons « Ils méprisèrent ses préceptes, ils imitèrent les nations qui les entouraient, alors que l'Éternel leur avait défendu de suivre leur exemple. Ils se livrèrent aux pratiques des devins et aux enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui déplaît à l'Éternel afin de l'irriter. » C'est pourquoi l'Éternel fut violemment irrité contre les Israélites et il les rejeta loin de sa face. L'exemple du roi Saül est très remarquable. Ce roi avait commencé par obéir aux ordres de Dieu. Saül avait fait disparaître du pays ceux qui évoquaient les morts et les devins. Nous pouvons le lire dans le premier livre de Samuel, chapitre 18. Puis il se détourna de Dieu et nous pouvons lire dans toujours ce premier livre de Samuel, « Cherchez-moi une femme qui sache évoquer les morts, dit-il. » « J'irai la trouver et je la consulterai. » Ses serviteurs lui répondirent, « Il y a à Andor une femme qui sait évoquer les morts. » Saül se déguisa en se revêtant d'autres habits. Il partit accompagné de deux hommes et ils arrivèrent pendant la nuit chez cette femme. Un troisième passage nous indique clairement les graves conséquences de la désobéissance de Saül dans le premier livre des Chroniques. Ainsi mourut Saül à cause de la faute qu'il avait commise contre l'Éternel, parce qu'il n'avait pas observé la parole de l'Éternel, et aussi parce qu'il avait interrogé et consulté ceux qui évoquent les esprits. Le second livre des rois nous trace un sinistre portrait de Manassé, qui fut l'un des rois les plus odieux de toute l'histoire de Juda. Et dans la liste de ses fautes, nous lisons « Il s'adonna aux pratiques des astrologues et des augures. Il institua des nécromanciens et des devins de rois. » Inversement, il nous est dit de Josias, qui fut un roi selon le cœur de Dieu, « Josias fit aussi disparaître les nécromanciens et les devins. Il mit ainsi à exécution les prescriptions de la loi » dans le deuxième livre des rois. Les prophètes contiennent aussi des avertissements sur le même sujet. Citons quelques passages. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 8. « En effet, ô Dieu, tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont envahis par l'idolâtrie de l'Orient. Ils s'adonnent à la divination, comme les Philistins. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et les devins, ceux qui chuchotent et qui murmurent, répondez, un peuple ne doit-il pas consulter son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ? À la loi et au témoignage, si le peuple ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour lui. Il sera errant dans le pays, misérable et affamé dans sa faim. Il maudira son roi et son Dieu. Il élèvera ses regards en haut, puis il les abaissera vers la terre, et il ne verra que détresse et obscurité, qu'une sombre angoisse. Il sera rejeté dans les ténèbres. Quelle description saisissante dans ces derniers versets de l'épouvantable état spirituel dans lequel se trouvent plongés ceux qui s'adonnent à toutes ces pratiques. Toutes les expressions dont se sert le prophète ont la justesse et la précision d'un diagnostic. On ne saurait mieux résumer la situation angoissante où nous rencontrons les victimes du spiritisme. Dans le livre de Michée, nous lisons « Je ferai disparaître de ton sein la magie » et tu n'auras plus de devin. » Tous ces textes nous montrent nettement l'attitude de Dieu à l'égard de la magie, de la divination comme de l'évocation des morts. Ils ne permettent aucun doute, Dieu condamne formellement ces choses. Il les avait interdites à son peuple avec les plus terribles menaces, et les transgressions d'Israël sur ce point eurent pour le peuple de Dieu les plus terribles conséquences. Interdiction absolue de communiquer avec les morts. Affreuse suite des désobéissances à cet égard, tel est, en résumé, l'enseignement de la parole de Dieu. Il faut remarquer aussi qu'aucun texte n'indique la possibilité d'un retour sur la terre et auprès des vivants de ceux qui sont morts. Au contraire, nous avons dans l'Ancien Testament des déclarations comme celle de Job, par exemple. « Car les années qui me sont comptées s'écoulent rapidement et j'entre dans un chemin d'où je ne reviendrai pas. » Job, chapitre 16, verset 22. Ou de David au sujet de son fils mort. « Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Pourquoi le ferai-je revenir? J'irai à lui, mais lui ne reviendra pas à moi. » De 2 Samuel, chapitre 12. Ce n'est pas ainsi que s'expriment les spirites. Pour se conformer à leur doctrine, David aurait dû dire « Pourquoi jeûnerai-je? Ne puis-je espérer que mon fils viendra encore me visiter par le moyen de quelque évocateur des morts ?» Mais il affirme « Pourrais-je le faire revenir ? J'irai à lui, mais lui ne viendra pas à moi. » Là, on voit bien la différence. Dans le Nouveau Testament, on ne peut non plus trouver aucune parole de Jésus, aucun enseignement des apôtres pour légitimer les pratiques et les croyances spirites. Bien au contraire, la parabole du mauvais riche et de Lazare semble avoir été donnée à dessein par le Seigneur pour nous mettre en garde contre la doctrine spirite et nous avertir qu'elle est en contradiction avec la pensée divine. Nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 16, versets 27 à 34, « Le riche dit, je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour qu'il leur atteste ces choses, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche reprit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Mais Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seraient pas non plus persuadés quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Abraham refuse de laisser Lazare retourner sur la terre. La pensée de Dieu n'est pas que les morts reviennent avertir les vivants de ce qui leur arrivera au-delà de la tombe, comme c'est la prétention des spirites. Dieu a donné sa parole. Il faut que l'homme l'écoute. Ils ont Moïse et les prophètes. Le Seigneur ne veut pas que la révélation qu'il nous a faite par le Saint-Esprit soit remplacée par celle que les morts nous apporteraient. Cette parabole nous enseigne clairement que, dans sa sagesse, Dieu ne permet pas que les morts reviennent instruire les vivants. Enfin, la Bible nous montre en Jésus celui qui tient les clés du séjour des morts. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, nous lisons « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts ». Or, on ne peut imaginer Jésus laissant aux morts la liberté de faire ce que son Père a défendu si énergiquement. On peut ainsi tourner et retourner l'Écriture, la scruter sous toutes ses faces. On n'y trouvera jamais une justification, mais toujours une condamnation du spiritisme. On nous objectera peut-être, pourtant les faits sont là, des messages sont donnés, vous ne pouvez le nier, et parfois ce sont des messages très encourageants et très beaux, et même des exhortations inspirées de l'Écriture. C'est ici qu'il faut se rappeler que le diable n'est pas seulement une force déchaînée, mais qu'il est un être subtil et rusé. Le diable a entraîné, dans sa révolte contre Dieu, un certain nombre d'êtres célestes auxquels il commande et dont il se sert pour accomplir ses desseins. Ce sont les troupes qu'il emploie dans sa lutte contre Dieu et qu'il fait manœuvrer contre les enfants des hommes. Une ruse des démons, ruse qu'ils ont eue depuis le commencement, est de se faire passer pour les morts. Grâce à leurs connaissances surnaturelles, ils peuvent aisément citer certains traits intimes, rappeler certains souvenirs qui abusent complètement les âmes non averties. Ils adoptent, ils revêtent, pourrait-on dire, la personnalité d'un défunt. Comme un comédien jouant un rôle, ils vont imiter auprès des membres de leur famille certains morts. Ils prennent pour cela possession de ceux qu'on appelle les médiums, se servant de leur corps, de leur voix, pour contrefaire, parfois à la perfection, les morts qu'ils prétendent être. Ils jouent si bien leur rôle que les proches eux-mêmes sont abusés et ils ne doutent pas avoir devant eux l'esprit de tel ou de tel de leur chair disparu. D'ailleurs, pour gagner la confiance, les démons n'hésitent pas à employer, s'il le faut, un langage pieux. Ils parleront du Christ, ils citeront les Écritures, ils se prêteront à tout pour capter l'esprit de leur victime. Leur but, c'est d'être cru, puis de faire désirer leur présence de plus en plus, afin de tenir sous leur dépendance, de suggestionner à leur guise, de posséder les imprudents qui se seront ouverts à leurs activités. Après le flot des paroles aimables, des exhortations, des consolations, ne viendront que trop tôt et trop souvent crainte, terreur, inquiétude, oppression, idées fixes les plus étranges ou les plus impures, pensées de suicide, blasphème et mille autres choses non moins terribles. Le véritable caractère de ces mauvais esprits apparaît d'ailleurs nettement lorsqu'on entre en conflit avec eux et qu'on les chasse au nom de Jésus. Avant de partir d'une âme, il n'est pas rare qu'il lui fasse prononcer des paroles les plus incohérentes, les plus violentes ou les plus grossières, et cela d'une manière tout à fait contraire à la véritable nature de leur victime, qui peut être par elle-même la personne la plus sensée, la plus douce et la plus modeste. Mais ce sont eux qui parlent ainsi. On est parfois frappé par l'extrême sévérité des menaces faites par Dieu dans l'Ancien Testament au sujet de la magie et de l'évocation des morts, mais à la lumière de ce qui précède, on peut mieux comprendre pourquoi Dieu a employé un langage aussi rude. Il le fallait. Les nations voisines s'adonnaient à ces pratiques dont le peuple de Dieu devait se garder pur. Comment Dieu avait-il pu admettre que les siens entrent en contact avec les forces infernales, car en définitive, toutes ces choses n'ont pas d'autre résultat. Chrétiens, tenons-nous donc à l'écart du spiritisme et des choses semblables. Ne jouons pas avec le feu, gardons-nous de tenter le Seigneur par d'expérience, pas d'expérience pour voir, sous prétexte de nous rendre compte, cela pourrait nous coûter cher. Soyons prudents et vigilants, ne laissons pas non plus, d'ailleurs, la crainte envahir nos cœurs, car, rachetés du Seigneur, si nous marchons dans l'obéissance à ses voies, humblement mais fidèlement, nous n'avons pas à redouter les démons. Ils ne peuvent rien contre nous. Notre Père Céleste nous garde, le sang de Jésus nous couvre et le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité et nous tient écartés du danger. Nous ajouterons aussi que, lorsque la séduction a cessé d'agir et que les choses sont vues sous leur vrai jour, les âmes qui, au premier abord, avaient cru trouver dans le spiritisme une véritable consolation, ne peuvent ressentir qu'un réel soulagement à la pensée que toutes ces prétendues révélations n'en étaient pas et qu'il n'y avait là qu'une œuvre de tromperie. En effet, lorsqu'on lit, sans parti pris, les messages attribués aux morts, on ne peut qu'être navré de leur banalité. Les défunts ont gardé leur tempérament et leur caractère intact, semble-t-il. Ils se manifestent exactement la plupart du temps tels qu'ils étaient ici-bas. Ils se montrent souvent préoccupés, inquiets, nerveux, irritables. Les questions un peu précises sur leur état paraissent les troubler et les laisser dans l'embarras pour y répondre. Mais à moins qu'ils ne se lancent dans des généralités sans valeur. Ils emploient le langage qu'ils avaient sur la terre et ne craignent pas de s'exprimer parfois d'une manière triviale. On se sent vraiment mal à l'aise à la pensée que nos disparus sont restés tellement terrestres. On n'en réalise pas à les entendre que la mort ait amené en eux la moindre transformation. Et puis, ce serait vraiment une situation bien enviable pour les défunts d'être constamment obligés de répondre aux appels d'un médium quelconque pour venir bavarder, nous le regrettons d'employer ces mots, mais hélas, c'est souvent le cas, avec les vivants sur toutes sortes de banalités dont il nous semble qu'ils devraient être tout à fait dégagés. Non, le spiritisme ne nous fournit pas de l'au-delà une image entraînante. Nous espérons, nous attendons pour les morts une chose autre chose, bien autre chose que tout cela. Combien différentes sont les révélations de la parole de Dieu ? Quelle merveilleuse vision elle place devant nous des choses célestes. Quelle sérénité, quelle splendeur, quelle gloire. Nous n'avons pas à entrer ici dans ce sujet, mais ce que nous affirmons en terminant, c'est que quiconque lit la Bible pour y trouver la pensée divine ne manque pas d'y découvrir une lumière parfaite, une consolation illimitée et la vie en abondance.